la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur JetFM et cette semaine, je commence tout juste un livre de Azadi baptisé « Leçons kurdes, les damnés des montagnes » publié chez La Fabrique Édition, qui coûte 16 euros et c'est un essai qui fait quelques 220 pages. Et je le lis notamment pour les besoins d'une rencontre publique très prochainement, très exactement le 16 janvier 2026, à la Géothèque de Nantes, où on aura le plaisir, avec Benoît Albert et les membres de la Géothèque, de recevoir Azadi, qui sera l'un des deux invités d'une soirée qui va questionner un peu le rapport à d'autres cultures, à d'autres populations. Et vous l'aurez compris donc, La Fabrique Édition, qui est un très bel éditeur qui fait un travail très soucieux, à la fois social et politique, assez conséquent, eh bien, a publié cet essai qui revient sur une certaine histoire kurde et puis surtout le monde contemporain. Mais justement, pour commencer, et puisque j'en suis vraiment au tout début, au premier chapitre, il me semble intéressant de vous lire l'introduction. Sous-titrée « Préhistoire des Kurdes », en quelques pages, on comprend beaucoup mieux ce qui se joue avec cette population qui a été le sujet de beaucoup de déplacements et d'oppressions. On comprend aussi très bien, à l'orée du livre dans le prologue et en regardant la carte qui est reproduite, les zones de peuplement, les mouvements et comment le peuple kurde, s'il existe un peuple kurde, ce qui est déjà un raccourci peut-être un peu trop rapide, comment ces populations sont les sujets de beaucoup de mouvements sociopolitiques et géopolitiques, puisque au carrefour de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Turquie, voire de la Géorgie, autant dire une répartition des frontières tout à fait arbitraire et qui a largement abîmé ces populations. Alors voici, plutôt que d'en faire une paraphrase, le propos, l'introduction de Azadi pour ce livre « Leçons kurdes, les damnés des montagnes ». Préhistoire des Kurdes. Les Kurdes sont un peuple que peu de personnes connaissent réellement, si bien que la première question à se poser est la suivante. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? On verra que l'identité des Kurdes est pourtant un sujet plus politique que démographique ou historique, qui invite à une réflexion fondamentale sur la notion même de peuple. Toute définition ethnique qui tendrait irrémédiablement vers une essentialisation raciale étant bien entendu à prohiber, on peut définir un peuple à travers ses particularités culturelles, sa ou ses langues, sa zone géographique, son histoire ou encore à partir de cette image vague mais poétique de communauté de destin. Or, l'idée commune de peuple renvoie immanquablement à des concepts plus marqués politiquement tels que la nation, l'État ou les frontières. Le triptyque peuple-nation-État, qui s'est développé au XIXe siècle en Europe au cours de la première phase d'expansion du capitalisme, avant de devenir une norme mondiale au cours du XXe siècle, a profondément déterminé la notion de peuple, désormais quasiment indissociable de celle d'État-nation. Presque tous les peuples colonisés qui se sont libérés au cours du XXe siècle ont adopté ce triptyque et ont pensé leur propre histoire, passée et à venir, à partir du modèle européen, justifiant par l'origine, falsifiée ou non, leurs frontières nationales ainsi que les caractéristiques de leur peuple. Nombre de conflits et massacres sont la conséquence d'une telle trajectoire. Bien que les Kurdes n'aient pas échappé à cette vision tripartite de leur peuple et de leur histoire, celle-ci a été étudiée sous différents angles, allant du tribalisme religieux conservateur au marxisme-léninisme et à la vision confédéraliste décoloniale défendue par le PKK depuis le XXIe siècle. Cette diversité de points de vue au sein du mouvement de libération kurde est l'un des fils rouges de ce livre. Elle n'empêche nullement de partager quelques généralités au sujet des habitants de cette région d'Asie occidentale ou Moyen-Orient, communément appelé Kurdistan, littéralement le pays des Kurdes. Situé entre le plateau iranien du Caucase, l'Anatolie, la steppe arabo-syrienne et la Mésopotamie, à la jonction des mondes arabes, persans et européens, le Kurdistan offre ainsi une perspective singulière sur cette région et sa population. Mythe et récit des origines. Déterminer l'origine des Kurdes a été l'une des tâches les plus ardues des nationalistes kurdes du début du XXe siècle, qui cherchaient à justifier historiquement la nécessité de fonder un État indépendant kurde en plein démantèlement de l'Empire ottoman. Pour ce faire, ils se fondèrent sur les sources arabes et persanes de l'époque médiévale qui attribuent une généalogie biblique aux Kurdes, comme en témoignent les prairies d'or et mines de pierres précieuses de Al-Mazoudi à la fin du IXe siècle. Relatant les multiples récits légendaires de l'époque abbasside, 750-1258, ce livre associe notamment la genèse des Kurdes à une légende iranienne, celle du tyran Zohak. Ce souverain, usurpateur d'Iran, souffrait d'un mal causé par un démon. De chacune de ses épaules sortait un serpent. Afin de soulager sa douleur, il devait les nourrir chaque jour du cerveau d'un jeune homme. Son cuisinier et conseiller, opposé à son autorité, décida de remplacer les cerveaux humains par ceux de moutons pour épargner les jeunes hommes qui se réfugièrent dans les montagnes. Ces derniers, ancêtres mythiques des Kurdes, se soulevèrent contre le tyran et le renversèrent. Dans la version persane du mythe, relatée dans l'épopée Shahnameh, le livre des rois, de Fedowski, c'est Kawa, le forgeron, qui terrasse le tyran et guide avec son étendard les jeunes réfugiés dans les montagnes. Remarquant une similitude avec leur situation d'oppression, les nationalistes kurdes du XXe siècle firent de ce récit un mythe fondateur à l'origine du Nevroz, le jour du Nouvel An célébré le 21 mars de chaque année par tous les Kurdes. Pour d'autres Kurdes, ce jour est associé à la prise de l'Assyrie en 614 avant Jésus-Christ par le Médès, dont ils se disent les descendants. La zone géographique de la Médie coïncide avec le Kurdistan. Les origines pré-islamiques des Kurdes ne reposent pas uniquement sur des mythes, mais aussi sur le travail d'orientalistes européens des 19e et 20e siècles qui ont mené des études linguistiques et archéologiques. Plusieurs thèses se fondant sur des textes antiques grecs ou iraniens, ou encore sur des tablettes cunéiformes de Mésopotamie, évoquent des peuples ou des régions aux noms proches de ceux des Kurdes. La région de Karda, décrite dans les textes sumériens du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ou les Kardukwoy du 5e siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins, c'est avec l'avènement de l'islam puis son âge d'or que les sources kurdes deviennent plus précises et abondantes. Dès l'émergence de la littérature arabo-musulmane, à la fin du 1er millénaire de notre ère, les Kurdes sont reconnus comme un peuple distinct, au même titre que les Arabes, les Turcs ou les Berbères, notamment en raison de leur langue. Les textes de l'époque attestent leur présence ancienne, par exemple au sein de l'Empire sassanide, bien avant la naissance de l'islam. Leurs qualités guerrières sont vantées, notamment lors de la conquête islamique du Kurdistan, marquée par des conflits violents entre les armées arabes et les troupes kurdes de Mossoul ou d'Ahmed, non kurdes de Diyarbakir. Convertis à l'islam dès les premières conquêtes, comme le prouve leur intégration massive aux armées musulmanes, les Kurdes restent pourtant insubordonnés aux califes et sultans et préservent en leur sein une diversité religieuse qui persiste encore aujourd'hui. S'ils sont majoritairement musulmans, pour la plupart sunnites mais aussi chiites, du haut des Cimins, notamment en Iran et en Irak, certains Kurdes ont également conservé un particularisme religieux au cours des siècles, mêlant l'islam, en particulier chiite, à certaines pratiques locales ancestrales. Des religions propres aux Kurdes ou à la région kurde et ses environs se sont maintenues, telles que le yézidisme, l'une des plus anciennes religions du monde encore pratiquée, en particulier en Irak et en Syrie, qui mêle mithraïsme et influence islamique. Évoquons aussi l'alévisme et ses 15 millions de fidèles en Turquie, dont environ un tiers de Kurdes, qui englobent différents cultes et pratiques allant du chiisme du haut des Cimins à des croyances traditionnelles proches du yézidisme. Avec le yarsanisme, pratiqué exclusivement par plus d'un million de Kurdes et incorporant une culture du secret, ou de la taqiyya, le yézidisme et l'alévisme témoignent d'un particularisme religieux qui s'est maintenu à travers les siècles, malgré les persécutions. Enfin, Bien que les chrétiens de la région du Kurdistan soient d'origine variée, notamment chaldéenne, assyrienne ou arménienne, certains se considèrent comme faisant partie du peuple kurde, à l'instar de nombreux juifs orientaux kurdophones. Malgré cette diversité religieuse, les Kurdes sont des représentants de premier plan des peuples de l'islam et furent des combattants reconnus de son expansion. L'un d'eux est d'ailleurs l'un des personnages les plus importants de l'histoire arabo-musulmane, le kurde Selahaddin Eyyubi, aussi connu sous le nom de Saladin. Au-delà de sa fameuse victoire sur les croisés à Jérusalem al-Quds, Saladin est le fondateur de la dynastie des Ayyubides, qui régna sur une grande partie du Moyen-Orient au XIIe et XIIIe siècle, parfois décrite comme une dynastie kurde puisque de nombreuses tribus et personnalités kurdes y ont joué un rôle prépondérant tant politique que militaire. Ces tribus constituent par ailleurs un élément essentiel de l'histoire kurde. Tout au long de l'époque prémoderne, antérieure au XXe siècle, ce sont elles qui caractérisent l'espace kurde pour les historiens. En un sens, une grande partie de l'histoire des Kurdes, telle qu'elle est connue et racontée, est celle de ces groupements sociopolitiques organisés selon des liens de parenté, réels ou supposés, nommés tribus. La pérennité de cette structure sociale et son importance dans les luttes militaires font des tribus un marqueur historique et culturel important, parvenant parfois à former ou soutenir de puissantes dynasties comme celle de Saladin. Une forteresse d'airain entre deux empires. Au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, les invasions mongoles et les conquêtes mamelouks mettent un terme à la dynastie des Ayyoubides et entraînent une restructuration de l'espace kurde. Au XIVe siècle, celui-ci se retrouve ainsi scindé en deux sphères d'influence majeures, l'empire mamelouk à l'ouest et l'empire mongol à l'est. Cette partition géographique, conséquence des luttes territoriales en Asie occidentale, fait de la région kurde une zone tampon quasiment naturelle, avec ses chaînes de montagnes entre les deux puissances rivales. Se met alors en place un schéma de gouvernance binaire, avec d'un côté la politique centralisatrice des Mongols visant à homogénéiser ethniquement le territoire, qui se traduit par l'intégration forcée dans leurs armées et la répression des populations kurdes, et de l'autre, un modèle fédéraliste et multiethnique favorisé par des politiques plus libérales sous la domination des Mamelouks. Le XVe siècle voit le déclin de ces deux empires, qui laissent place à deux autres dynasties, les Ottomans et les Safavides, qui perpétuent ce schéma. Les Ottomans empruntent le mode opératoire des Mamelouks, tandis que les Safavides s'inspirent de celui des Mongols. Devenus les deux plus grands ensembles politiques de la région à la suite de leur expansion mutuelle en direction du Kurdistan, l'un depuis l'ouest de l'actuelle Turquie, l'autre depuis l'est de l'actuel Iran, les empires perses et ottomans s'affrontent au début du XVIe siècle dans toute la région kurde. Cette lutte d'influence culmine lors de la bataille de Kaldoran, à la frontière turco-iranienne, en 1514, remportée par les Ottomans, prélude à plus de 40 années de guerre jusqu'à la paix Amasya en 1555. Au cours de ce conflit, un personnage historique kurde important, Idris Bitlisi, rallie de nombreuses principautés kurdes convoitées par le Shah perse au sultan ottoman. De manière générale, les tribus et émirats kurdes rejoignent les rangs ottomans face aux Safavides en raison des politiques répressives de ces derniers envers les Kurdes. Non pour des motifs religieux donc, mais bien parce que l'impérialisme iranien mène une politique centralisatrice violente envers les périphéries et peuples minoritaires. Le ralliement kurde aux forces ottomanes conduit à l'établissement d'un Kurdistan ottoman en Anatolie de l'Est qui s'étend de Malatya à Akari, sur une grande partie du Kurdistan turc actuel, et comprend aussi une partie du nord-est de l'Irak. Cette entité territoriale est entre autres instituée dans le but de protéger l'empire face à son voisin perse. Les mots du sultan Soliman le Magnifique, relatés dans le Kanun-Nameh, recueil des lois, consacrent la tâche du Kurdistan en protection de son empire comme une barrière solide, comme une forteresse d'airain contre la sédition du démon Gog de Perse. Destinée à contrer toute expansion safavide vers l'ouest, la région se développe sous l'impulsion d'Idris Bitlisi, devenu l'un des proches conseillers du sultan Selim Ier et architecte de la structure politico-administrative du Kurdistan ottoman. Jouissant d'une relative autonomie, les différentes principautés et émirats kurdes cultivent l'identité kurde à travers les arts et l'histoire. À la fin du XVIe siècle, un émir de Bitlis, le kurde Saraf Han Bitlisi, devient l'un des premiers auteurs kurdes à écrire l'histoire de son peuple dans son livre « Le Sharafname », œuvre majeure qui glorifie les seigneurs kurdes de toutes les époques et qui est largement diffusée dans l'ensemble du Kurdistan. Véritable âge d'or de la féodalité kurde, le Kurdistan ottoman permet à de nombreuses principautés gouvernées par des tribus kurdes de jouir d'une quasi-indépendance politique, d'une économie florissante et d'un dynamisme culturel important tout au long du XVIe siècle. Similairement, et malgré l'attitude plus répressive des Perses à l'encontre des Kurdes, la maison des Ardalan gouverne un territoire autonome kurde à la frontière ottomane, regroupant les régions de Sanandaj, Sakez et Baneh en échange d'un tribut versé à l'État central iranien. Lorsque les guerres interimpériales reprennent au début du XVIIe siècle, les autonomies kurdes s'en trouvent fragilisées, mais se stabilisent au gré des trêves et accords de paix qui se succèdent entre les deux empires. C'est durant cette période que l'un des auteurs kurdes les plus connus, Emedezani, écrivit l'épopée Mem-e-Zin, en langue kurde. Considérée comme l'épopée littéraire kurde par excellence, cette œuvre qui relate une histoire d'amour tragique, semblable à celle de Roméo et Juliette, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire kurde. Elle consacre l'une de ses plus précieuses particularités, sa langue. Cette épopée est d'ailleurs parsemée d'éléments relatant le désir d'indépendance des Kurdes, dont l'auteur se réclame puisqu'il écrit son livre en kurde par patriotisme et amour du peuple, je cite. La langue qu'il utilise est celle parlée aujourd'hui par plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Elle appartient au groupe irano-arien des langues indo-européennes et reste, après le persan, la langue du monde iranien occidental la plus parlée. La langue kurde comprend différents dialectes et idiomes qui, pour diverses raisons, notamment historiques, n'ont jamais été unifiés. Le plus parlé d'entre eux est le kurmanci ou kurmanji en français, présent dans l'ensemble du Kurdistan. Le sorani vient en deuxième en matière de locuteurs et est essentiellement parlé au Kurdistan du Sud et de l'Est, actuel Irak et Iran. Au sud de cette zone, d'autres dialectes, tels que le gorani, sont parlés. Enfin, le dimili, aussi appelé le zazaki, est parlé principalement dans la région de Dersim et Seldivig Bilingon, actuelle Turquie, au nord du Kurdistan. Bien que proches, ces dialectes diffèrent suffisamment pour que la compréhension interlinguistique soit limitée, ce qui n'empêche pas les kurdophones de chacun des dialectes de s'identifier à l'ensemble du peuple kurde. Généralement, toutes ces langues peuvent s'écrire à l'aide de deux alphabets, l'un kurdo-arabe, l'autre kurdo-latin, qui a été adapté de l'alphabet latin au début du XXe siècle par le militant et intellectuel Seladed Halid Bedirkhan, issu d'une grande famille kurde. Son grand-père, Bedirkhan Beg, est prince de la région de Botan et fut à la tête de l'une des révoltes kurdes les plus importantes contre l'Empire ottoman. Sur fond de politiques violentes de centralisation, de déclin de l'Empire marqué par la sécession des Balkans au début du XIXe siècle, ainsi que de rivalités intra-kurdes entre les différentes familles dirigeantes, les principautés kurdes voient leur autonomie se réduire grandement au cours du XIXe siècle, aussi bien au sein de l'Empire ottoman que chez son voisin perse. C'est au milieu de ce siècle que Bedirkhan Beg tente d'unifier les tribus kurdes et parvient pendant 2 ans à maintenir une proto-indépendance avant d'être défait par les forces ottomanes. Les relations de plus en plus cordiales entre Istanbul et Téhéran, face à la menace russe grandissante, privent finalement les principautés kurdes de leur rôle de protecteurs des frontières et précipitent leur chute. Les ressources naturelles abondantes du Kurdistan deviennent alors, en pleine expansion du capitalisme, un enjeu majeur pour les puissances régionales. Les deux fleuves importants de la région, le Tigre et l'Euphrate, prennent leur source dans les montagnes kurdes. Ces dernières regorgent de minerais en tout genre, cuivre, bronze, chrome, plomb, argent, charbon, etc. La région de Djezireh, située actuellement à la jonction de la Syrie, de l'Irak et de la Turquie, est l'une des terres les plus fertiles du Moyen-Orient et symbolise la diversité des productions agricoles du Kurdistan, dont certaines sont devenues des emblèmes de leur région. La pistache de Dilok Gaziantep ou encore la grenade de Elepse Alabja. Enfin, le pétrole, présent en abondance dans le sol kurde, sera au centre d'une lutte féroce entre États au XXe siècle. Le déclin brutal des autonomies kurdes provoque une vague de révolte parmi les princes et figures dirigeantes kurdes au cours du XIXe siècle, à l'instar de Bedirxan Beg. Parallèlement, d'autres chefs tribaux kurdes, guidés par leurs propres intérêts, cherchent le soutien de l'État central turc. Ce dernier est alors sous influence du mouvement nationaliste et moderniste des Jeunes Turcs, officiellement connu sous le nom de Comité Union et Progrès, dont les chefs ont mené la rébellion contre le sultan Abdulhamid II, dernier monarque à exercer une véritable autorité sur l'Empire ottoman, renversé en 1909, et mis en œuvre la turquisation de l'Anatolie. Tandis que certaines familles prestigieuses du temps de la féodalité kurde développent les prémices du nationalisme kurde au début du XXe siècle, comme les Berdixan, d'autres, loyales à la sublime porte, participent au massacre d'Arméniens, d'Assyro-Chaldéens et de Yézidis à la fin du XIXe siècle, puis au génocide de 1915. Durant ce sombre épisode, la majeure partie des forces ottomanes de la région arméno-chaldéenne est kurde. Bien que les Arméniens et les Assyro-Chaldéens aient entretenu pendant des siècles des relations amicales avec les Kurdes, les tensions entre chrétiens et musulmans exacerbées par le pouvoir ottoman, les rivalités socio-économiques entre les communautés et le contexte de la Première Guerre mondiale ont conduit un certain nombre de Kurdes à s'impliquer dans ce génocide. Cela n'empêche pas les autorités ottomanes, dès 1916, de s'en prendre aux Kurdes. Un décret impérial autorise la déportation des Kurdes en vue de leur réinstallation en Anatolie occidentale, dans des lieux où ils ne doivent pas représenter plus de 5% de la population. Ce sont les prémices de la politique assimilationniste de ce qui deviendra quelques années plus tard la République de Turquie. En 2 ans, 750 000 Kurdes sont déplacés, dont les 2/3 meurent de maladie, de froid ou de faim durant ces déportations. Le démantèlement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale annonce le morcellement des dizaines de millions de Kurdes entre 4 États. La Syrie, où ils représentent environ 10% de la population actuelle, l'Irak, entre 15 et 20% de la population actuelle, l'Iran, entre 10 et 15% de la population actuelle, et la Turquie, plus de 25% de la population actuelle. À partir de ce moment, être kurde signifie l'affirmation d'une différence linguistique, culturelle, historique, voire politique, avec les États nouvellement créés. Par-delà sa diversité, une identité kurde s'est forgée au fil du temps, transcendant les clivages tribaux, dépassant les différences religieuses et linguistiques, s'appuyant sur une histoire jalonnée de luttes, de drames et de mythes fondateurs, et vouant son avenir à l'unification d'un espace kurde morcelé. Voilà pour l'introduction de « Leçons kurdes, les damnés des montagnes », un essai de Azadi publié aux éditions La Fabrique. Et je vous le redis, Azadi viendra parler de ce livre à la librairie La Géothèque le 16 janvier 2026. Alors on écoute un peu de musique kurde qui est très diverse, comme vous l'aurez compris. Ici, le Kurdistan iranien représenté par un immense chanteur, Shahram Nazeri. Thank you.
ساقی کنیش جام دام دور بی ساقی کنیش جام دام دور بی سر حلقی مجلس بارام بور بی دنیا نودم دا گردون شارا لیلی مجنون داشت بارام دلارا زلیخا سودا یوسف خیش بی دنیا نودم دا گردون شارا لیلی مجنون داشت بارام دلارام فراد زاده عشق شیرین ویش بی زلیخا سودا یوسف خیش بی دم داوی دار قوچاخان دور ستیزه فلک یک یک بردو اجور ستیزه فلک یک یک بردو اجور یار 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 دم داغردون شاه لیلی مجنون داش باران دلارا
دنیا نودم داغردون شاه لیلی مجنون داش باران دلارا
فرهاد زاده عشق شیرین ایش بی زلیخا سودا یوسف خیش بی
فرهادزاده عشق شیرین ریش بی زلیخا سودا یوسف خیش بی
دنیا نودم دا گردون شارم لیلی مجنون داش بارم دلارم فرهادزاده عشق شیرین ریش بی زلیخا سودا یوسف خیش بی
یار
ایسک افتنیم نی روزگارم نی فتنه واشوم اینت گذارم ناسای موسا نگی سوی رسول نه یا اوی مجنون نه اوی بلول نه چاو فرهاد نه دنگ هاتم نه لقا یوسف نه مور خاتم ایسک افتنی چاو فرهاد نده نه لقا یوسف نه مور خاتم. دم دوای دام قوچا خان دور ستزه فلک یک یک برد و جور ستزه فلک یک یک برد و جور.